Une question un peu naïve qui est venue, c'est nous en France, on n'a jamais de sous pour faire la moindre chose, le moindre projet d'infrastructure. La contrainte financière ne semble pas vous entraver. Donc, on aimerait bien comprendre le secret du Maroc de ce point de vue-là. Ça, c'est une première question. Par ailleurs, alors, on nous a parlé, je vais poser un peu dans le désordre, hein, mais on nous a parlé dans le bus ce matin de l'importance du logement social dans la construction de logements à Tanger. Donc, on aimerait bien peut-être que vous nous clarifiez un peu les ordres de grandeur parce que ce qu'on vous a dit n'était pas très clair. Et que peut-être, si c'est possible, en quelques mots, vous nous expliquez. Parce que je pense que c'est un système extrêmement différent de celui dont on a l'habitude en France. En quoi c'est effectivement du logement social. J'ai encore des tas de questions, en fait, mais elles sont extrêmement dispersées. Donc je pense que peut-être que le mieux, c'est que... s'il y a quand même une autre question qui me rabuste un peu, c'est l'articulation entre le développement urbain de la ville et les zones franches. Parce que finalement, ces zones franches, certaines sont d'emploi. Enfin, j'aimerais bien comprendre un peu mieux depuis quand, en fait, il y a ce développement économique qui s'appuie sur la création de zones franches. J'ai l'impression que c'est quand même bien antérieur, notamment au projet Tangemène. Et la manière dont, enfin, dans ces deux éléments s'articulent, puisque finalement, maintenant, ce que je comprends bien, il y a la création d'une ville, de deux villes nouvelles, que ce soit Ashrafat, près de l'usine Renault, ou la ville chinoise, si je peux m'exprimer ainsi, qui se développera aussi à côté de quelque chose qui s'assimile à une zone franche. Donc finalement, maintenant, il y a une sorte de développement urbain qui lie développement urbain et zones franches. Voilà. Donc, je lâche le micro. Je pense qu'il y aura pas mal d'autres questions. Transport.
Bonjour. Moi, j'ai juste une question. Vous avez évoqué l'enquête publique liée au document d'urbanisme, la DUP. Comment vous pratiquez la concertation avec les populations, avec les acteurs économiques, notamment en zone rurale, sur ces documents d'urbanisme et notamment sur le projet cité Mohamed VI Tangetel? Est-ce qu'il y a eu de la concertation et voilà, comment s'est accueilli tout ça par la population? Parce que moi, votre présentation m'a quand même donné une bonne claque par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a du développement dans tous les sens. Et je me demande comment votre territoire va pouvoir garder son âme et certains patrimoines environnementaux, agricoles, avec tous ces projets.
Oui, bonsoir. Moi, ma question, elle concerne les transports publics. Vous avez parlé du problème de la voiture, de la place de la voiture, du fait qu'il y avait énormément de flux. Est-ce qu'il y a un travail qui est mené aussi pour améliorer le réseau existant? Quel est l'état de ce réseau? J'ignore complètement.
On
engrange,
hein.
Comme
vous voulez
noter.
Oui, dans la visite aujourd'hui, on nous a montré de très nombreux quartiers dits informels. Comment ces quartiers sont pris en compte dans ce schéma, dans ce projet? Comment relier ces quartiers au reste de la ville, le reste de l'agglomération, pour qu'ils profitent eux aussi de la dynamique que vous avez présentée.
Oui, moi la question c'était sur le quartier Tangetel. Je me demandais à quel point les prévisions vous semblaient réalistes en termes de planning et de programmation, et si elles étaient réalistes, sous quelles conditions en termes de matériaux, d'énergie, en termes de mobilisation pratique au service de la construction du projet.
va peut-être s'arrêter là pour le moment.
Allez-y.
Non, mais je pense qu'il y a...
C'est une dernière question.
Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez clarifier le rôle et les compétences des élus locaux? Parce qu'au final, on a un peu d'interrogation sur ce qu'ils font s'ils ne siègent pas dans les organes qui s'occupent de l'urbanisme, s'ils ne délivrent pas, d'après ce que j'ai compris, ils délivrent les permis de construire, mais vous, enfin, l'agence urbaine a le droit de s'y opposer. Est-ce que vous pouvez revenir sur les attributions qui sont dévolues aux communes, enfin aux élus locaux?
Bonsoir. Je vais un peu faire écho à la notion de logement ou quartier informel. Bien évidemment, vous avez fait état du SDOU, de l'unification de la programmation et de représentation. Il y a quelque chose qui m'a un peu surpris, puisque vous vous êtes donné l'électricité et la voirie et le courant à des quartiers non réglementaires. Pour moi, il y a un paradoxe.
Je vous remercie. L'urbanisme, c'est un peu passionnant pour écouter, pour voir, mais il est très difficile pour l'aborder. C'est un secteur qui est, où il y a la conjugation de plusieurs partenaires. Et là, on peut pas voir l'urbanisme avec un œil d'architecte, mais avec plusieurs disciplines. Parce qu'on n'est pas en train de construire une maison, un bâtiment, mais on est en train de gérer une ville où il y a une population qui vit dans un espace. Donc le côté humain, le côté historique, le côté économique, le côté sociologique, le côté géographique, le côté, donc il a été plusieurs côtés, plusieurs spécialistes ont participé à l'élaboration de ce projet-là. Bon, la première question, l'argent d'où vient? L'argent d'où vient, c'est l'argent de l'État. C'est un programme qui a été étalé sur 5 ans, 2013-2017. Il y avait la participation de plusieurs ministères à travers leur représentation régionale ou locale. Il y avait la participation du ministère de l'Intérieur. Il y avait la participation de la commune, bien sûr, de la mairie. Il y avait la participation de l'équipement. Et la participation d'autres établissements. Comme les autoroutes. Parce que c'est une agence. Donc c'est la participation de plusieurs intervenants et plusieurs partenaires. Au niveau central et au niveau local, et c'est l'argent purement national. Donc, il n'y a pas de prêt au niveau de n'importe quel pays. Donc, c'est comme le cas, par exemple, la participation de la commune, le déplacement de quelques équipements communaux, et une partie de ces équipements qui sont déjà, qui existent, par exemple, quand on déplace la gare routière, quand même, on va passer une partie de terrain de la gare routière aux enchères, pour récupérer de l'argent. On ne peut pas construire tout le terrain de la gare routière, mais une partie. Et c'est même le cas pour le marché de gros, pas mal d'activités, mais ce n'est pas ça qui finance tout le programme. Le programme, il est financé par le gouvernement, c'est à travers les différents départements ministériels. Pour la deuxième question du logement social, c'est, il y avait cette notion du logement, cette idée, cette projet de logement social pendant les années 90 pour arrêter l'habitat non réglementaire pour répondre aux besoins d'une couche sociale défavorisée. Parce que on n'a pas, en France, les HLM, on n'a pas comme en France les HLM, c'est-à-dire c'est la mairie qui finance ou bien qui participe au financement ou bien au loyer avec les citoyens selon leur niveau économique ou bien leur niveau de vie, mais c'est on répond à une large couche sociale pour la création de ce type de logement qui est le logement social. Pendant les années 80, les années 90, il y avait la superficie, c'était sur 50 mètres carrés, et c'était sur 200 000 dirhams, les environs de 20 000 euros. On est passé avec la convention en 2000, je crois 2005, à une superficie entre 50 et 65 mètres carrés et un montant de 25 000 euros, 250 000 dirhams. Donc, et c'est le promoteur, il bénéficiait pas mal d'exonérations. Il récupère une somme, les environs, de 500 000 dirhams, c'est 5 000 euros des impôts. Il est exonéré de l'enregistrement et pas mal de frais pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir vendre le produit de logement social à ce prix-là, mais à condition. La condition, c'est que le promoteur doit réaliser 500 logements sur 5 ans. 500 logements sur 5 ans pour pouvoir bénéficier, pour ne pas contourner la loi. Donc, il est obligatoire de réaliser ce nombre de logements sociaux et avec il y a même un cahier de charge qui définit bien les éléments de logement social au niveau d'équipement. L'articulation entre les zones franches et les zones urbaines, je peux vous dire que la première zone franche était au port d'Angers, ou le port de Tangéville. C'était pendant les années, je peux vous dire les années 70. Donc c'était des gens, des installations, des sociétés qui fabriquaient et la commercialisation automatiquement à travers le port. En 97-98, il y avait la création de la zone franche des MZ à côté de l'aéroport. Donc ces zones franches-là, ils ont participé beaucoup à la dynamique économique de la ville et de la zone. Le rayonnement de ces zones-là, le rayonnement de la ville de Tanger en matière d'attraction, dépasse le niveau régional, c'est au niveau national. Donc c'est une activité qui a beaucoup participé à la dynamique, à la création de pas mal d'emplois, et même tant à la,